Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler d'Amazon qui étend sa publicité comme un virus inarrêtable, de FTX qui explose en vol dans le monde des crypto-monnaies, un petit peu quand même de Elon Musk et Twitter bien sûr, et tout le reste de l'actualité tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 486. Nous sommes en novembre 2022, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes qui ont rejoint l'émission TTTH, c'est des T majuscules et H minuscules, donc voilà, Léonore, Dominique Dallaire et merci aussi au producteur Raph Olivier Maury. Et c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Merci à vous tous de votre soutien. Si vous aussi, vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech, c'est sur patreon.com/rdvtech. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour cet épisode deux invités qui m'accompagnent depuis bien longtemps. Un d'ailleurs, depuis le tout premier épisode du Rendez-vous Tech. C'est à lui qu'on honneur aux anciens. Hein. On va lui dire bonjour d'abord. Salut Jeff, comment vas-tu depuis la Silicon Valley?
Non mais dis que je suis vieux tout de suite.
Bah écoute, on n'est pas jeune. Heureusement,
on n'est plus aussi jeune qu'on était voilà. Quand on a fait le numéro 1. C'est clair. Et on approche le numéro 500. C'est incroyable. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver depuis la Silicon Valley où aujourd'hui il fait beau.
Oh, t'as bien de la chance. Moi, c'est novembre en Finlande. C'est la nuit permanente. Et c'est pas encore le pire. Hein. En décembre, ça va être encore pire. Heureusement...
Bah écoute, on a eu un peu d'eau. On en a besoin. Donc, on est content. Mais ce matin, il faisait froid. Mais il y a un très beau soleil.
Eh bien, justement, en parlant de soleil, le soleil de nos émissions est là. L'éternelle jeunesse, le bonheur incarné. C'est Marion qui se joint à nous encore une fois. Comment vas-tu, Marion?
Merci pour cet accueil, Patrick. Éternelle jeunesse, ça fait du bien quand je viens de fêter mon anniversaire. Donc, merci. Mais toujours un plaisir de vous retrouver, du coup, dans cette émission.
On a un programme qui est intéressant à couvrir aujourd'hui. Comme je disais dans l'intro, on va parler un petit peu d'Elon Musk et de Twitter, mais pas beaucoup et pas tout de suite. On va s'offrir un petit peu des vacances avant de manger nos légumes. et puis, ça sera relativement court parce que c'est toujours un petit peu la même histoire. Donc, en attendant, j'ai un sujet qui m'a paru hyper intéressant sur Amazon. Un autre qui est inévitable, c'est FTX, la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a explosé cette dernière semaine. Avant de se lancer dans les sujets et les grosses infos de la semaine, je voudrais dire un tout petit mot. Je risque de faire un épisode, une sorte d'édito spécial, mais ouvert à tout le monde, pas seulement aux patriotes, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dois parler aussi de politique dans les émissions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, mais j'ai reçu ces derniers temps des messages de personnes qui s'étonnaient, je le dis parfois gentiment, que ce soit des patriotes ou des gens sur les réseaux sociaux, qui s'étonnaient que je parle de contexte politique quand je parle de ces sujets. Et j'aimerais, je pense que la plupart d'entre vous, encore une fois, le comprennent, mais la plupart d'entre eux étaient très polis, très gentils et m'expliquaient en quoi ça ne leur plaisait pas. Et j'aimerais, plutôt que de répondre à chaque personne une par une, j'aimerais faire un petit mettre les choses à plat, quoi. Puis vous expliquer pourquoi je le fais de cette manière et mes motivations et pourquoi je pense que c'est important. Donc, ça sera peut-être un épisode spécial qui viendra dans quelques jours. On verra si j'ai le temps de le faire. Mais je ferai ça à ce moment-là parce que je pense que c'est important. Et c'est important, bien sûr, de répondre aux auditeurs qui se posent la question, qui est... Je comprends la question, mais vous verrez, j'espère que toutes les réponses seront dans ce petit édito spécial. Ceci dit, on va se lancer dans les infos les plus importantes de la semaine, tout de suite, en commençant par Amazon. Amazon, vous l'avez peut-être vécu, il y a de plus en plus de pubs sur Amazon et en même temps, si je dis vous l'avez vécu, vous ne l'avez peut-être pas ressenti aussi clairement que les pubs qu'on voit ailleurs sur Internet parce qu'Amazon, ils sont malins, ils mettent sur leur site des publicités qui sont simplement des produits promus, qui sont clairement des publicités. Et depuis quelques temps, leur fréquence et leur quantité a tellement augmenté que ça a vraiment, d'une part, changé la nature de l'expérience sur Amazon pour les utilisateurs et pour les vendeurs. Et ça a gonflé les revenus d'Amazon. Aujourd'hui, les revenus de la publicité sur le site même d'Amazon dépassent ceux d'Amazon Prime dans leur compte à eux. Donc, c'est vraiment des revenus qui sont très importants pour Amazon. Et il y a un article qui sera d'ailleurs dans la newsletter que je vous recommande d'aller lire, qui est un article sur Vox, vox.com, dont je vais vous donner quelques extraits pour détailler à quel point c'est un changement important et en quoi il se manifeste. D'abord, on a quand même beaucoup de pubs aujourd'hui. Il y a presque une rangée sur deux qui est de la pub. J'exagère, mais vraiment à peine. Et la différence entre les pubs sur Amazon et ailleurs, il y en a plein, mais l'une d'entre elles, c'est que les gens qui sont sur Amazon, ils sont généralement prêts à acheter. Donc une pub risque d'avoir un impact beaucoup plus important, surtout que c'est un objet qu'ils ont cherché, c'est beaucoup plus important comme impact, comme transformation que sur Google. Une autre différence aussi, c'est que quand on clique sur une pub sur Amazon, eh ben, l'acheteur, il va acheter son truc sur Amazon. Donc, la pub amène toujours sur le site qui vous fait la pub. C'est assez diabolique comme système, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a l'effet sur les vendeurs qui doivent maintenant, pour remonter face à la concurrence, dépenser entre 10 et 20% du montant de leur vente sur Amazon en pub Amazon. Ce qui fait qu'Amazon vend des pubs aux gens à qui ils font gagner de l'argent. Donc, ça revient dans leur système à eux. Un autre élément important, c'est que du coup, aujourd'hui, la remontée organique des produits de qualité sur Amazon, elle est presque morte, quoi. Là, les produits, ils remontent grâce aux pubs des vendeurs et beaucoup moins grâce aux appréciations, aux approbations des utilisateurs. Alors, on pourrait se dire « mais attends, c'est infernal, c'est horrible, rends-toi compte, on ne peut pas choisir par nous-mêmes, on nous l'impose ». Et il y a un petit bémol à mettre, c'est que si on regarde le monde du retail normal, physique, eh ben c'est un petit peu comme ça aussi. Ça peut être que, enfin, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, mais le placement dans les rayonnages, les têtes de gondole, etc., bah, tout ça, ça se paye. Donc finalement, c'est pas si différent de ce qu'on avait avant Internet. Ça reste quand même, je pense, problématique par certains aspects, mais il n'empêche, c'est pas si différent. Et à côté de ça, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle Amazon a autant de croissance dans ce domaine, c'est en partie là encore grâce au changement qu'a fait Apple sur les iPhones pour le partage de données de...
Bonne nuit mon cœur, bonne nuit mon ange.
On enregistre la veille du jour normal et c'est le soir, donc mon fils, je ne sais pas si vous l'avez entendu, est venu dire bonne nuit et vous dit bonne nuit à vous tous aussi si vous écoutez l'émission avant de vous coucher. Donc, l'une des raisons pour lesquelles cette croissance est possible, c'est que Apple a changé la gestion des données privées, a interdit les données tiers partagées, et donc ça a renforcé les systèmes en place. C'est-à-dire que Amazon a plein de données sur vous, mais Facebook, qui utilisait des données sur vous, alors ils en ont plein aussi, mais ils utilisaient aussi les données sur vous qui venaient d'ailleurs, ou ils utilisaient leurs données pour faire de la pub ailleurs, eh ben, ils sont affaiblis par ça. Et vous pouvez vous dire, oh bah ok, donc ils font de la pub partout sur leur site, très bien, mais en fait, ça va beaucoup plus loin, parce qu'ils ont une vision du futur de la pub qui va au-delà du web, que ce soit leur site ou d'autres, et ils ont des ambitions sur leur site de streaming de jeux et d'autres choses, Twitch bien sûr, mais aussi des événements sportifs diffusés en direct sur Prime, qui sont là encore, ils ont par exemple Thursday Night Football, qui est un des événements de la semaine aux États-Unis, et ben ils ont acheté les droits et ils vont faire de la pub dessus. Donc, ils augmentent encore leur système de pub au-delà du web et du site lui-même. Et il y a aussi des technologies spécifiques qui sont développées pour pouvoir faire de la pub, comme je le disais, pas seulement sur les propriétés Amazon, mais sur l'ensemble du web. Ça m'amène à une question, parce que bon, tout ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, là, je vous encourage à lire l'article de la newsletter, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de pubs un petit peu partout. On voit des services de streaming qui font des offres moins cher avec pub, Netflix, Disney qui s'en rapproche. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de pubs sur Twitter ou sur des sites web qui sont surchargés de pubs. Est-ce que, Jeff, c'est vers toi que je vais me retourner, est-ce que c'est une fonction qui est inévitable quand on sait que n'importe quelle société qui fonctionne bien va chercher de la croissance dans son chiffre d'affaires? Et du coup, comme le net fonctionne sur la pub, le net roule sur la pub, the net runs on ads, il est un inévitable que pour faire croître le chiffre d'affaires constamment, eh ben on rajoute toujours de plus en plus de pubs. Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai une vision un petit peu primaire de la chose ?
Non, non, c'est tout à fait juste. Et dans un environnement comme aujourd'hui, où les revenus de la pub ont baissé, tu dois maximiser les endroits où tu peux mettre de la pub, et donc tu vas avoir de la pub partout. C'est pour ça que si Netflix, aujourd'hui, se dit, bah tiens, peut faire payer la moitié à des gens et coller de la pub, et en fait, soit récupérer autant d'argent sur les utilisateurs, ou au minimum, faire un peu un payback sur la différence entre 7,99 et 14,99 en mettant de la pub, bah, je vais le faire. Et Amazon, c'est pareil. Moi, ce que je pensais quand tu expliquais ce qui se passe, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, parce que c'est tellement évident.
Mmh. Ouais, donc, mais jusqu'où ça peut aller, c'est un petit peu la crainte. Est-ce qu'il y a une limite à cette croissance? Est-ce que à un moment, l'expérience utilisateur devient tellement dégradée qu'ils vont se calmer un peu? Je sais pas, on parle d'expérience utilisateur.
Ils se calmeront un peu au moment où les gens arrêteront d'utiliser les produits, et ce ne sera pas le cas. Ça, tu te rappelles du film Ready Player One?
Bien sûr.
Où tu avais donc de la pub partout, littéralement tu avais 15% de l'écran utilisé pour le jeu et le reste était de la pub. Bon, bah, c'est un extrême auquel on n'arrivera jamais, j'espère. Mais bon, quand tu vois les écrans de certaines applis en Chine ou en Asie, je veux dire, c'est incroyable. C'est pire que Vegas, quoi. T'as des trucs qui s'affichent partout. Et en gros, tu essaies de trouver tes infos. Donc, je pense qu'il y aura une certaine limite. Mais cette notion de on va essayer d'avoir une expérience premium et de ne pas embêter l'utilisateur, je pense que bah, l'environnement, les réalités économiques font qu'ils bah, n'ont pas le choix, ou ils ont pris la décision de ne pas avoir le choix. Alors Musk essaie de faire quelque chose de différent en imposant donc, son paiement de 7,99 jusqu'à ce qu'il change son avis sur le prix, mais je veux dire, ça ne va jamais marcher.
Ouais, c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents. Quand on dit the web runs on ads ou the net runs on ads, c'est que ce qui fait fonctionner vraiment Internet, c'est la pub, c'est pas les abonnements. Et ça, c'est vrai quasiment partout. Dès qu'on atteint une certaine taille, les gens sont plus aussi prêts à payer. Pour une petite opération comme la mienne, les abonnements font clairement la majorité des revenus et la publicité une minorité. Mais dès qu'on a un truc un peu plus gros, bah c'est la pub. Est-ce qu'il y a, du coup, je pose la question à une spécialiste des interfaces, parce que tu disais, Jeff, en Chine, il y a énormément de pubs dans les applis ou sur les sites. On n'a pas besoin d'aller en Chine. Hein. Il y a des sites où tu as 7, 8, 9 pubs sur la page et tu cherches aussi, tu as un paragraphe et un paragraphe de pub, quoi, ou une image de pub. Chez nous aussi, je le vois tout le temps. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas le choix et on ne peut pas s'abonner à tout pour ne plus avoir de pub nulle part? Ou est-ce qu'à un moment, l'expérience pousse les éditeurs à changer leur méthode, Marion?
Ouais, c'est une question difficile à répondre. En fait, comme l'a dit Jeff, c'est le moment où les utilisateurs vont partir. Et s'ils partent, c'est parce que soit ils trouvent des alternatives, soit finalement, ils ne trouvent pas suffisamment de valeur dans ce type de service pour supporter la publicité. Et donc, dans ce cas, ils partiront. Donc, c'est une question de est-ce qu'il y a une alternative qui est plus intéressante, où il y a moins de pubs, etc. Ou est-ce que finalement, ils en retirent moins de valeur que ce qu'ils doivent payer en regardant ces publicités. Donc ça, c'est une question qui, je veux dire, a toujours été visible sur Internet. Enfin, on n'a pas attendu 2022 pour avoir des sites bourrés de publicités. Enfin, rappelle-toi les années 90 ou 2000, où ça commençait juste, il y avait des pubs dans tous les sens, ça clignotait, les bannières animées, etc. Donc voilà, et regarde les sites d'information aujourd'hui. Ils ont soit un paywall, soit des pubs pas mal partout, parce qu'il faut qu'ils arrivent à rémunérer les journalistes qui écrivent et les articles qui sont disponibles. Après, ils n'ont pas encore craqué justement le modèle qui fait que ça pourrait fonctionner pour eux. Hein. Ils ont la presse, on le sait, depuis des années, sont en galère. Donc, la différence là que je vois moi avec Netflix, Amazon, etc., c'est que pendant pas mal de temps, ils ont tourné, ils ont investi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rentables et donc ils ont pris des risques. Enfin, je veux dire, Amazon, c'était flagrant. Et maintenant qu'ils veulent, ils veulent amortir, ils veulent rentabiliser, etc., maintenant qu'ils ont trouvé le market fit, c'est-à-dire des gens prêts à prendre la valeur qu'Amazon et leur vend, et ben du coup, maintenant, ils stabilisent ça, ils augmentent les prix, ils voient que si finalement, est-ce qu'ils augmentent les prix, est-ce que les gens partent, bon, ben, finalement, le pourcentage de personnes qui partent vaut bien, finalement, pouvoir plus monétiser ceux qui restent. Et donc du coup ils restent comme ça, ce qui est logique. Netflix fait pareil, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le marché français avec un prix qui était imbattable. Je veux dire, avant on avait Canal+, donc essayer de comparer les prix d'abonnement Canal+ avec les prix d'abonnement Netflix, j'ai les deux, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Et ils sont arrivés avec des prix super super intéressants, tout le monde allait là-dessus et chaque année ils ont augmenté les prix et les gens en restent. Alors après, j'ai pas fait l'étude du pourcentage de personnes qui partaient de Netflix, mais je pense qu'ils retombent sur leurs pieds et ça fonctionne.
Ouais.
Donc et Canal+, eux, ont dû revoir leur modèle. Parce que si auparavant, ils riaient au nez de Netflix, bah maintenant, ils ont des offres qui font des bundles, des groupements avec Netflix. Ouais, donc, ils ont bien compris voilà, ils ne pouvaient pas rester sur leur ancien modèle non plus.
En plus, c'est intéressant parce que sur Amazon, spécifiquement, si on revient à ce sujet-là, ils sont dans une situation où les pubs, je pense, sont parmi les moins abrasives du net. Parce que parfois, quand tu as de la chance sur le web, tu vas avoir une pub qui va t'intéresser, mais c'est très rare. Sur Amazon, je ne dis pas que tous les produits sponsorisés en promo avec différents types de labels difficiles à comprendre vont forcément être des trucs qui t'intéressent, mais plus. Et puis parfois, c'est même le truc que tu cherchais et sur lequel tu aurais cliqué sans, même s'il n'y avait pas eu la pub pour, parce que tu es sur un site de shopping, tu fais une requête pour chercher un truc spécifique. Bon, bah oui, forcément, tu peux tomber sur les trucs qui t'intéressent. Tu mentionnais le fait que les prix montent. Effectivement, ça a fait monter un petit peu les prix moyens. Tout et dans l'article, donc encore une fois, il sera dans la newsletter. Vous allez sur notrepatrick.com pour vous abonner, il est vraiment bien.
Mais tu as raison sur un truc, c'est que je regardais un produit l'autre jour et j'avais une douzaine de produits qui étaient sponsorisés et je cherchais en fait ceux qui étaient les mieux appréciés par les utilisateurs et c'était une galère pour trouver ça, quoi.
Ouais,
je ne suis même pas sûr que ce que j'ai acheté, c'était effectivement le meilleur produit.
Ouais, c'était des pubs partout. Vas-y Marion, tu peux conclure.
Bah, c'est ça, pour rebondir sur ce que vient de dire Jeff, en fait, c'est Amazon va potentiellement atteindre un moment où les gens n'arriveront plus à trouver des produits de qualité parce que ceux qui sont un peu pourris vont payer des emplacements publicitaires. Et là, ça va impacter négativement Amazon parce que les gens vont associer Amazon avec des produits de mauvaise qualité et du coup vont perdre confiance dans la plateforme. Donc ça, c'est un risque potentiel. Mais ils ont tellement réussi à ancrer l'habitude que quand tu cherches quelque chose à acheter, tu vas sur Amazon,
oui, bien sûr.
Avant d'atteindre le niveau de rupture, je serais assez curieuse de voir jusqu'où ils vont aller, quoi.
Bon, eh ben écoutez, on continuera à suivre ça. FTX, c'est le deuxième gros sujet de cet épisode. Alors FTX, je vais vous la faire courte. C'est une énorme plateforme d'échange de crypto-monnaies et d'autres objets crypto. Et c'est une histoire qui est un petit peu qui devient un petit peu commune. Elle s'est cassée la gueule la semaine dernière après qu'elle ait été considérée comme l'une des plus importantes, les plus solides du marché. Elle s'est cassée la gueule parce que, alors encore une fois, je ne vais pas faire tous les détails, mais il y avait la société mère qui avait investi beaucoup dans la crypto-monnaie spécifique à cette plateforme, le Alameda, qui... Enfin bref, elle a explosé. Et l'une des figures importantes du monde des crypto-monnaies, c'était Sam Bankman-Fried, qui était le président de FTX et qui était... l'une des personnes qu'on consultait aux États-Unis quand on voulait avoir des informations sur les crypto-monnaies, etc. L'une des choses qui est... C'est vraiment un gros événement. Hein, avant de lancer l'enregistrement, je crois, Jeff nous disait, c'est un petit peu le Lehman Brothers des crypto-monnaies. Et on va en reparler dans une seconde. Mais l'une des choses qui est vraiment intéressante, c'est là encore une analyse que j'ai trouvée judicieuse de Bloomberg, hein, qui dit l'un des gros problèmes qu'ils ont eu chez FTX, c'est que Sequoia Capital, qui est l'un des investisseurs, n'avait pas accès aux informations comptables de Alameda. Ils n'avaient personne chez, au board de FTX, et c'est un petit peu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez Sequoia ? Parce qu'ils ont investi de l'argent et ils n'avaient aucune visibilité, aucun contrôle sur la manière dont était gérée la boîte. C'est un petit peu, enfin en tout cas, ça montre à quel point ce n'était pas une bonne idée de faire les choses comme ça. Jeff, je voulais te poser la question. Qu'est-ce qu'on en pense de cet événement dans la Silicon Valley ? À quel point c'est important ?
Bah, c'est ce que je te disais, c'est l'équivalent de Lehman Brothers qui est une des plus grosses banques au monde, qui est connue, reconnue et qui est sur, dans laquelle des centaines de millions de gens ont placé de l'argent parce qu'ils croyaient dans la marque et dans la viabilité de la boîte. Et donc FTX, c'était effectivement le deuxième plus gros exchange crypto au monde, c'était le plus gros américain, plus gros que Coinbase, et en gros c'était un château de cartes. Donc quand on entend ah bah c'est de la faute de Sequoia, non c'est pas de la faute de Sequoia. Sequoia ils ont investi relativement tard alors que la boîte avait déjà sur le papier $1 milliard. Ils ont eu accès à des pas que je veux les défendre, ils ont fait une méga connerie de mettre 215 millions là-dedans. Nous on est enfin comme je l'ai dit depuis des années, je suis extrêmement sceptique sur les crypto-monnaies, et donc j'ai fait quelques investissements qui, je pense, ne seront pas impactés. Par contre, le problème, c'est que comme FTX était le plus gros échange aux exchange aux États-Unis, et comme c'était un énorme contrepartie pour beaucoup de boîtes dans le domaine des cryptos, tu vas avoir des centaines de boîtes dans le monde de la crypto qui a de l'argent dans l'exchange de FTX. Et malheureusement, cet argent a complètement disparu, puisque ce matin, il y a eu une info qui est tombée en disant, bah voilà, on peut trouver 900 millions de dollars dans les comptes de FTX, on n'est même pas sûr, et en gros, il devrait y avoir 9 milliards à cause de tous les dépôts et les machins, les opérations qui étaient en cours. Et donc, tu as des tonnes de boîtes qui vont se retrouver en manque de cash de façon catastrophique, parce qu'ils s'attendaient à recevoir, en fait, parce qu'ils avaient fait une transaction avec FTX en tant que contrepartie, ils s'attendent à recevoir de l'argent, ils ne vont pas le recevoir, et donc, soit ils vont réussir à lever de l'argent de façon en catastrophe, soit ils vont se planter. Et donc, tu vas avoir des dizaines, des centaines de boîtes dans le monde de la crypto qui vont se planter à cause de ça.
Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser légitimement ? Est-ce que là, c'est bon, ça y est, c'est la fin, la confiance a disparu et le système est ébranlé, et du coup, l'industrie des crypto-monnaies va clairement encore plus que décliner ? Ou est-ce que les gros acteurs qui restent comme Binance et d'autres, eux, sont sains et sont bien gérés et vont continuer à braver l'hiver crypto pour essayer attendre le printemps qui arrivera peut-être un jour ?
Alors, il y a plein de questions dans ta question. Donc, est-ce que les crypto-monnaies vont crever à cause de ça ? Non. Non, parce qu'à la base, ce n'est pas un problème. Tu vois, quand Lehman Brothers s'est cassé la gueule, c'est parce qu'ils avaient créé des assets, donc les mortgage-backed securities, qu'ils avaient packagés dans des produits, comme étant des produits de forte qualité, alors que c'était vraiment de la daube. Et donc, FTX n'a rien fait au monde des cryptos pour la compromettre. Ils ont juste créé un système qui était un Ponzi scheme. C'était comme Bernie Madoff. Ils avaient en fait, ils inventaient de l'argent. Ils avaient créé en fait une backdoor dans du code de gestion en fait de l'exchange qui leur permettait en fait de créer ex nihilo de l'argent qu'ils n'avaient pas. D'accord. Et donc les milliards qu'ils étaient censés brasser n'existaient pas. Alors, est-ce que à la base, où est-ce qu'ils ont introduit la fraude ? Est-ce que c'est au niveau de la Meta Research ? qui a pris donc l'argent des clients de FTX en collatéral, ou est-ce que c'est un autre endroit? On ne sait pas, parce que c'est que le début en fait de l'aspect forensique, de l'analyse forensique que l'on doit faire. Mais à la base, c'est de la fraude. C'est des guignafiers qui ont profité de leur position, et c'était une douzaine ou une vingtaine de gus qui se sont mis d'accord pour créer un système qui était complètement frauduleux. Et en gros, ils ont réussi à le faire parce qu'ils étaient des très bons codeurs, et ils ont réussi à flouer tout le monde. Donc, c'est pas un
problème inhérent aux crypto-monnaies. C'est vraiment un problème de FTX qui a fait quelque chose d'illégal.
Exactement. Mmh. Alors, derrière, quelle va être la répercussion? Elle va être énorme, parce que ça va créer une demande de liquidité monstrueuse. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines et quelques mois, FTX était censé être le chevalier blanc du monde de la crypto et venait à l'aide de tous les lenders qui avaient pris des positions qui étaient risquées, et donc ils essayaient en fait de les racheter et de les remettre à flot. Tu disais, ils sont sympas. Ben non, ils n'étaient pas sympas, c'est qu'en fait, ils voulaient les sauver parce que eux-mêmes étaient exposés dans ces opérations de lending, parce qu'ils avaient donné le collatéral en collatéral les assets de leurs clients, ce qui est complètement interdit. C'est-à-dire que quand tu crées une boîte de finance, tu as d'un côté l'argent des clients et de l'autre côté ton budget opératoire. Tu ne vas jamais mélanger les deux, c'est interdit. Enfin, c'est, à la base, si tu le fais, c'est de la fraude. Donc, tu as des tonnes de boîtes qui étaient dans les quelques milliards de dollars que FTX brassait chaque jour. Tout cet argent n'existe plus, il a disparu. Et donc, tous les gens qui comptaient sur cet argent pour faire du trading, pour opérer, eux, ils vont être impactés. Et Dieu seul sait ce que ça veut dire. Mmh. Alors, est-ce que Coinbase est bien géré? Est-ce que Binance est bien géré? Coinbase, c'est une boîte publique américaine. Ça veut dire qu'ils sont audités. Ça veut dire que ils ont des contrôles en place, donc je pense que oui, Coinbase devrait être OK, à condition que les problèmes de liquidité créés par FTX partant en fumée ne s'étendent pas à d'autres grands acteurs du monde de la crypto. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est tout le problème, c'est que aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as une approche qui est « fake it until you make it », donc fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est ce que Theranos a fait avec Elizabeth Holmes, et c'est ce que FTX a fait avec SBF. Et en plus, le truc qui est vraiment naze, c'est que c'était vraiment la face de l'industrie. Tu voyais sa tronche partout sur Forbes, et de même que
Theranos. Mais tu dis SBF, c'est Sam Bankman-Fried, celui dont je parlais tout à l'heure.
Oui, on l'appelait SBF.
C'est ça.
Sam Bankman-Fried, parce que c'est trop long, c'est comme Jean-François Clavier.
Non, mais SBF maintenant, c'est bon.
Donc SBF, et c'est. Il a parlé aux régulateurs, il essayait de faire passer des lois qui étaient, by the way, très intéressantes pour lui et qui lui auraient permis éventuellement de continuer à faire son petit scheme. Et en fait, la question que tu te poses, c'est mais à quel moment tu pensais que tu allais te faire choper? Parce que quand tu fais un Ponzi scheme de cette amplitude, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ça va plus marcher. Ouais. Et donc, il s'est fait choper. Et là, on sait pas. Alors, je sais pas où il est. Il y avait des histoires hier comme quoi il y avait un avion privé qui avait quitté les Bahamas parce que tout ce beau monde est aux Bahamas. Parce que à la base, j'ai posé une question sur Twitter. C'est alors SBF, c'est Elizabeth Holmes ou c'est Bernie Madoff? Parce que Madoff, c'était du mensonge depuis le début. Alors que Holmes, tu peux dire, a pensé que ça allait marcher, donc elle a un peu menti au début, puis elle a continué à mentir, et puis à un moment, elle s'est peut-être rendu compte que ça ne marcherait pas, mais c'était trop tard. Et donc, c'est quoi? Est-ce que c'était un mensonge depuis le début, ou est-ce que c'est, je me suis retrouvé coincé et j'ai dû commencer à mentir? Pas que la différence veuille dire grand-chose pour les gens qui vont perdre de l'argent, et le fait qu'ils devraient probablement passer le reste de ses jours en prison.
Bon, écoute, on aura la suite de l'histoire, mais au moins maintenant, vous comprenez un petit peu pourquoi c'est aussi important, cette histoire de FTX qui se plante.
Et malheureusement, c'est des gens qui pensaient avoir des investissements qui n'étaient pas forcément safe, parce que dans la crypto, rien n'est safe. Mais c'est comme d'habitude les petits porteurs qui vont se retrouver coincés et qui vont perdre probablement des milliards. Et tu récupéreras peut-être entre 5 et 10 cents d'or.
Ouais. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit topo, Jeff. C'était absolument fascinant. On va passer à la suite de nos sujets. Mais avant ça, très rapidement, un petit mot pour vous dire que cette émission, c'est du solide et vous pouvez savoir exactement où va l'argent que vous envoyez. C'est dans mon ventre, parce que je l'utilise pour acheter à manger, acheter du matériel pour faire les émissions, acheter, payer mon loyer, ce genre de choses. Donc, si vous voulez soutenir quelque chose qui est bien plus solide et fiable que FTX, en même temps, ce n'est pas très dur d'être plus solide et fiable que FTX maintenant, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech. N'hésitez pas, le lien est dans les notes de l'émission et ça prend 2 minutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et du coup, maintenant, on passe au sujet un petit peu plus court, un petit peu plus rapide. Donc, je vous l'avais promis la semaine dernière, on va pas faire super long sur Twitter. Mais évidemment, il se passe des choses. En gros, hein, on ne va pas tout, parce que c'est un petit peu la même chose que les deux dernières semaines, ça continue. Mais ce qui s'est passé, gros bordel autour de la vérification, on le dit depuis le début, le gros problème des systèmes voulus par Elon Musk, c'est qu'on ne sait plus qui tweet vraiment et on peut faire des comptes qui prétendent en être d'autres. Eh bien, ça a provoqué tout un tas de problèmes. Et à la suite de tous ces problèmes, ils ont ajouté des labels, retiré, remis, on ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi. Eh bien, il y a toute une série d'execs de Twitter qui ont démissionné, au moins 4, très importants à ma connaissance, dont le Head of Trust and Safety, Yoel Roth, qui a démissionné il y a 4 jours. Et c'était lui qui était un petit peu le défenseur de Musk sur les réseaux sociaux, l'un des seuls qui était encore dans la boîte d'avant et qui expliquait les stratégies de Musk au monde par son compte Twitter. Eh bien, il est parti. C'était vraiment une surprise. À côté de ça, il y a eu donc plusieurs marques qui ont eu d'énormes problèmes, dont un laboratoire pharmaceutique qui a été impersonated, dont un faux compte Twitter se faisant passer pour eux a dit « Maintenant, l'insuline est gratuite ». Le labo a perdu en bourse 20 milliards de valeur, je crois, en quelques heures, un jour ou deux. Donc, les conséquences de ce manque de vérification est évidemment hyper important et très sérieux. Et du coup, il y a plusieurs sociétés et plusieurs firmes qui ont recommandé à leur société d'arrêter leur publicité sur Twitter. L'une d'entre eux, c'est Omnicom, qui a des clients comme Apple, Pepsi, etc. etc. Donc, c'est vraiment un gros problème. À côté de ça, on a une étude qui montre que les insultes racistes ont beaucoup augmenté depuis 2 semaines sur Twitter. Et dans le même temps, on apprend que Twitter a coupé le nombre de fournisseurs de services, enfin de personnes qui travaillent pour eux en extérieur de la boîte, de contractors, de 4400 à 5500, sachant que dans ce groupe-là, il y a la modération, les équipes de modération qui sont incluses. Et à la base, c'était 2000 personnes, je crois. Donc, on ne sait pas combien il en reste, mais évidemment, pas suffisamment pour gérer Twitter. Déjà qu'il n'y en avait pas assez, bah là, ça va être encore pire. Et à côté de ça, il y a un article qui est aussi dans la newsletter sur le design antiviral de Mastodon, qui est vraiment intéressant pour voir de quelle manière Mastodon fait son design pour ne pas pousser les infos à devenir virales. Il n'y a pas, par exemple, de quote tweet de quote retweet ou de recherche sur l'ensemble du réseau. On peut rechercher des hashtags, on peut rechercher des noms d'utilisateurs, mais on ne peut pas faire une recherche sur tout le réseau, donc on ne peut pas aller chercher des trucs pour aller leur répondre « Ah, toi tu putes, toi t'es un con », etc. Donc, c'est un design qui est intéressant, qui, à mon avis, fait que Mastodon n'aura pas le succès viral qu'amène ce genre de choses, mais c'est un design qui est intéressant. La question que je voulais poser, c'est, bah là encore, Jeff, c'est quoi la Silicon Valley, dans la Silicon Valley, l'ambiance autour de toute cette histoire? Est-ce que, enfin, je sais pas, la vallée est divisée entre les fans d'Elon Musk et ceux qui trouvent que c'est un bordel pas possible? Est-ce que tout le monde se dit, ouais, bon, attends, ça fait deux semaines, attendons de voir parce que on peut pas juger sur les deux semaines. Quelle est l'ambiance? Alors, bien sûr, tu connais pas tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais tu es quand même bien dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu dirais?
Bah, je dirais que c'est un bordel sans nom. Elon a un track record à s'imposer dans des industries dans lesquelles il avait a priori aucune raison d'avoir du succès. Donc Tesla avec les voitures électriques et bientôt autonomes, les fusées. D'accord.
SpaceX, bien sûr.
SpaceX, à la base, quand il s'est lancé dans SpaceX, tout le monde s'est dit, mais attends, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît rien aux fusées. What the hell? Et quand tu vois ce qu'il a réalisé, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, dire Elon Musk est incapable de faire blah, faut peut-être se calmer. Cela dit, je pense que clairement, il avait aucun plan. Que ce soit quand il a fait son caprice, il a dit je vais racheter Twitter. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la seule chose qu'il fait, c'est couper les coûts, parce que bah, il s'est rendu compte que Twitter, ça va lui coûter 4 millions de dollars par jour. Donc quand tu calcules, ça fait à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard de cash qu'il va devoir fournir, parce que c'est maintenant il est le propriétaire de Twitter, il fait ce qu'il veut avec. Et clairement, comme tu le disais, couper la modération, ça veut dire que ça va être infernal. Bon, quand tu as un réseau relativement fermé, que tu suis des gens, etc., ça va encore, mais la mésinformation va exploser de façon monstrueuse, et je ne sais même pas comment il va régler le problème, parce que, bon, ça fait des années que Twitter n'était pas bien géré, je suis sûr que tu peux faire tourner Twitter avec beaucoup moins de monde, mais taper dans le tas et couper dans l'art sans avoir de plan, je suis pas sûr que ça va réussir. Et en plus, il est le CEO, tous les mecs qui étaient plus ou moins en charge de différents départements sont partis les uns après les autres. Et donc, je vois pas comment il s'en sort. Et il disait il y a 2-3 jours que une option, c'est peut-être qu'il abandonne Twitter et qu'il le mette en banqueroute, ce qui serait tragique parce qu'on a besoin de Twitter. Et donc, parce que aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus Instagram et Facebook personnellement parce que j'échange avec mon cercle d'amis. Mais Twitter a un rôle réel, et si jamais, parce que ça a donné une voix à des gens qui n'en avaient pas, et si Twitter disparaît du jour au lendemain, je ne sais pas comment on le remplace.
Ouais. C'est un aspect que beaucoup de gens ont tendance à dismiss, à balayé d'un revers de la main. Ouais, bon, si Twitter se plante, il y aura peut-être certainement un remplaçant, et peut-être même que Mastodon réussira à prendre le relais d'une certaine manière, mais c'est vrai que Twitter a un rôle bon et mauvais, mais le mauvais, on le perdra peut-être s'il disparaît, mais le bon aussi. Marion, est-ce que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter sur tout ce...
Pour répondre à la question, la vallée, en fait, c'est plus... on a tendance à être des sceptiques, et donc tout le monde regarde ça et commande comme quoi c'est un bordel sans nom, et ça a disparu, un tel s'est fait virer, etc. Donc il y a un cercle de supporters de Musk qui disent non, mais de toute façon il sait ce qu'il fait, il va réussir, machin.
Les échecs en 4D, il a tout prévu à 12
étapes. Ouais. Mais c'est le cercle. Bon, il y a des gens qui ont eu une réaction négative a priori parce que Musk avait fait un takeover de Twitter, ça c'est une chose. Moi, je n'ai pas décidé de quitter Twitter, mais bon, je regarde. Et en gros, on ne fait que commenter les différents faux pas ou les trucs qu'il fait en temps réel, parce que t'as l'impression que il va pisser, il a une idée, il tweet, il dit à ses équipes faites ci, et puis trois heures plus tard, il pisse de nouveau et puis il a une autre idée, quoi. Donc c'est un bordel sans nom, et on va voir où ça va, mais c'est clairement l'augmentation de tout ce qui est racisme, malinformation, etc. C'est vraiment, vraiment pas une bonne chose.
Et une mauvaise chose, même financièrement pour Twitter, puisque ça impacte la publicité. Et comme on l'a dit depuis le début, the net runs on ads. Et donc, Twitter aussi.
Mais ça, on s'en fout. C'est plus. Twitter se fout maintenant de son revenu, puisque maintenant, ça, la piggy bank, c'est le compte, c'est la caisse d'épargne d'Elon, et c'est lui qui paye. Donc,
oui.
En gros, toutes les conneries qu'il fait, c'est lui qui va payer.
Ouais, ça se trouve, il s'en fout et il s'est dit bon, je suis au casino, j'ai 10 milliards à perdre et puis voilà, et je vais m'amuser pendant un an, quoi.
Marion. Ouais, sauf qu'il a quand même emprunté, 13 milliards auprès des banques.
Bien
ils
sûr.
Ils sont en train d'essayer de liquider la dette à la vitesse de la lumière. Et puis il a quand même pris des investissements de Sequoia, de S16Z, etc. Il a quand même des obligations. Alors pourquoi est-ce que les VC ont été investis dans un truc qui a été racheté à 44 milliards alors qu'il en valait 15? Parce qu'à la base, nous, ce qu'on fait, c'est on investit dans quelque chose qui ne vaut pas grand-chose de manière à l'amener à un grand succès. Alors que là, en gros, ils sont investis dans un truc et littéralement, ils ont cramé. À l'instant, ils ont envoyé leur argent, ils ont cramé 70% de l'argent parce que la boîte ne le valait pas. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il foutait.
Il leur a dit, je vais faire monter ça à 1 trilliard, 2 trilliards, 3 trilliards comme... billions, comme Apple et Amazon, tu vois. Qui a d'ailleurs beaucoup perdu d'argent, Amazon. Marion, un commentaire là-dessus, je ne sais pas s'il y a beaucoup...
je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Moi, ça me fait un peu rire quand on compare Twitter et Mastodon. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder Mastodon, comme tu l'as dit. Ce n'est pas designé, pensé pour être une place publique comme les Twitter. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est pas facile à utiliser. La notion de serveur est compliquée à comprendre. Je veux dire, ça va rester un réseau social de niche et c'est fait pour. Donc je ne vois pas trop pourquoi on s'obstine à comparer les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a des boutons qui ressemblent ou un fil qui a la même organisation que ça a le même but ou la même mission à remplir. Donc moi, je n'irais pas comparer les deux. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'utilisateurs de Twitter qui ont essayé de migrer sur Mastodon ont rapidement déchanté aussi parce qu'ils ne trouvaient pas justement cet écho de popularité et de qui peut y avoir sur Twitter. Je m'interroge quand même. Enfin, on peut continuer à s'interroger sur le comportement d'Elon Musk parce que il fait tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Il se met à dos les annonceurs, il se met à dos les équipes. Il essaie de garder des gens, mais la manière dont il traite les personnes qu'il veut remercier est tellement inhumaine ou juste même pas.
Oui, les contracteurs.
Du coup, il se met à dos les derniers.
Les contracteurs ont appris qu'ils étaient virés sur Twitter, quand ils ont essayé de se connecter à leur compte. Il a insulté un sénateur, il s'est moqué du sénateur en réponse parce que le sénateur a dit « Mais il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi sur Twitter et qui a dit des trucs, qu'est-ce que je peux faire ?» Musk est allé dire
«
mais c'est parce que ton compte, c'est déjà une parodie à la base. »
C'est hallucinant. Et quand tu vois
ce qu'il
peut avoir comme rapport avec la FCC, je veux dire, il vaut mieux avec ce genre d'organisme. Le principe, c'est d'établir une relation de confiance pour que justement tu ne sois pas sanctionné à la moindre erreur, etc. Et que tu puisses présenter une action de bonne foi. Genre, certes, tu ne fais pas tout parfaitement, mais tu travailles pour améliorer et respecter les droits des utilisateurs et faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour travailler là-dessus. Donc, c'est plus une collaboration. Là, il se met à dos publiquement, même la FCC, dans son comportement. En gros, c'est un troll. Il a un comportement de troll et donc il attire tout ce qu'il peut avoir de mauvais sur Twitter. Donc, évidemment, il lance une nouvelle feature à l'arrache, excusez-moi de l'expression, mais genre sans faire les contrôles, etc. Comme les gens qui vont sur Twitter maintenant, ils vont pour voir le drama Elon Musk. Eh ben, il va attirer le drama également avec tout ce qu'il fait. Donc, c'était évident que les gens les détournaient et faire de l'impersonnification de personnes, de comptes, etc. C'était évident, c'était mais tellement visible que je ne comprends même pas pourquoi. Je pense qu'il était inarrêtable de toute façon.
Ouais, bah oui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains execs sont partis, c'est qu'ils disent, ils demandent maintenant aux développeurs de certifier eux-mêmes la compatibilité, compliance, la validité des accords avec les règles demandées par la FTC sur la protection des données.
Non, mais ça, c'est génial.
Mais c'est les développeurs...
C'est pas un ingénieur qui va aller en prison.
Mais c'est ça.
C'est un ingénieur qui va aller en prison. Enfin, il peut leur demander de certifier, mais au final, il travaille pour Twitter. Oui. À moins qu'il fasse appel à des contractors, mais il travaille pour Twitter. Donc, c'est Twitter qui prend la responsabilité. Il peut demander à qui que ce soit, mais c'est un employé Twitter. Donc, c'est Elon Musk qui va prendre la responsabilité. C'est ridicule comme principe. Chez Alan aussi, on a on travaille avec des données de santé, des consentements, etc. C'est quand même très, très cadré. Évidemment que des fois, on applique des règles que le département légal nous transmet et qu'on ne fait pas appel à eux pour chaque modification. Mais certes, c'est notre responsabilité de designer, mais à la fin, c'est Alan qui prend le risque quand même. Alors nous, on a des règles, etc., qu'on respecte, donc c'est cadré. Mais voilà, à la fin, ça reste quand même le risque porté par Alan. C'est un employé de la boîte.
Écoute, on continuera à suivre ça.
Après, une question, juste pour terminer, une question que je me posais, c'est vu son comportement erratique et problématique avec Twitter et le fait qu'il engage sa fortune personnelle, etc., est-ce qu'il ne va pas mettre en risque, du coup, SpaceX et Tesla ? Ça, c'est peut-être, est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ?
Non, je pense pas, parce que il y a des gens qui lui ont donné de l'argent, mais ils peuvent se retourner, j'imagine, pas contre lui personnellement. Ils peuvent ensuite récupérer Twitter et puis essayer de le revendre ou de le, tu vois, mais ils vont pas aller récupérer l'argent d'Elon Musk, j'imagine. Je doute qu'il ait mis en jeu sa fortune personnelle. Si c'est le cas, il faudra qu'il vende les actions qu'il a dans SpaceX et Tesla pour payer ses créditeurs. Mais même là encore, les actions seront vendues et donc les sociétés en question ne seront pas directement mises en danger. Quoi.
Bon. Non, il a quand même vendu énormément de Tesla.
Bien sûr.
Parce que le prix total du rachat était 54 milliards. 44 milliards, $54 par action. Il a emprunté 13 milliards, je crois. Je ne sais pas combien est-ce qu'il a récupéré auprès d'investisseurs de VC. Il a aussi...
Il a vendu pour 8 ou 9 milliards, il a emprunté 13 et il a récupéré le reste d'autres investisseurs, dont Jack et d'autres. Mais du coup, l'argent qui a été mis dans Twitter est déconnecté de sa fortune à lui, je pense pas que... Enfin, reste, tu vois, le reste de sa propriété de Tesla ou de SpaceX.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour Tesla ou pour SpaceX qu'ils se prennent une tôle. Mais par contre, c'est lui qui est le bailleur de fonds. C'est-à-dire que si Twitter perd 4 millions de dollars par jour, et que quelqu'un doit faire un chèque de 4 millions pour funder, c'est lui. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Je sais pas combien Twitter avait de cash quand ils ont fermé la transaction, mais c'était pas des tonnes, quoi. Donc à un moment ou à un autre, c'est lui qui va devoir payer les salaires.
C'est ça que je m'interrogeais en effet.
Bah, disons que si jamais
exactement sur le coût. Et il y a aussi l'aspect confiance parce que je veux dire. Il y a quand même la confiance qu'on peut avoir en le CEO, en la personnalité d'Elon Musk, qui pour moi est quand même largement ébranlée. Est-ce que ça va ébranler du coup les investisseurs pour Tesla et SpaceX ?
Alors
je vais poser la question.
Ça c'est oui, parce que s'il a besoin d'argent, il peut toujours vendre plus d'actions Tesla ou SpaceX s'il le veut. Ça c'est possible et il a de la marge. Mais la question, est-ce que la confiance est ébranlée ? Oui, ça elle est plus... Bon, en même temps, Tesla et SpaceX, ils se portent bien. On va conclure rapidement avec quelques news supplémentaires. Disney a plus d'abonnés en streaming que Netflix. Ça vous la coupe, hein ? Il y a une petite astuce. En fait, il faut compter les abonnements, pas juste de Disney+, mais aussi des services qui sont disponibles aux États-Unis comme Hulu et ESPN. Disney en a 235 millions contre 223 pour Netflix, mais bon, en comptant tout. À côté de ça, Netflix va faire son premier, vient d'annoncer son premier événement global live. C'est un spectacle de Chris Rock, donc un comédie, un stand-up de Chris Rock qui sera diffusé en 2023 en live pour tout le monde. C'est une expérience qui est intéressante, ça. Je suis très curieux de voir quel bruit ça va faire en ligne quand tout le monde se mettra, c'est un truc qui est rare sur Internet, au même moment devant sa télé pour streamer le truc. Et si les serveurs de Netflix tiendront. Et puis, dans le domaine du streaming, Salto...
Et si on n'a plus Twitter, comment on fait?
Ah, mais merde, on va sur Mastodon. Sur Discord, venez sur Discord. Désolé. Le lien du Discord de la commu est dans les notes de l'émission, c'est super Discord. Et puis, Salto risque de se désintégrer dans les jours qui viennent, comme la fusion TF1-M6 n'est pas faite, mais France TV avait abandonné le bateau, et donc les actionnaires se réunissent pour décider ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Bon... Le gros concurrent français à Netflix risque de ne plus exister d'ici quelques jours. Zuckerberg a bien renvoyé plus de 10 000 employés. Ils vont en même temps, visiblement, Amazon fait la même chose. Hein, donc, c'est pas, ils seront pas tout seuls. 11 000 chez Facebook et 10 000 chez Amazon. À côté de ça, le truc qui a vraiment fait tiquer beaucoup de gens, c'est que Zuckerberg a dit... C'est de ma faute, je suis responsable des erreurs qu'on a faites chez Meta parce que j'ai trop fait grossir la boîte pendant le Covid, etc. Et donc, il a dit « je suis responsable », mais il n'a pris aucune conséquence, aucune. Genre, il n'a même pas dit « je vais, réduire mon salaire ou vendre des actions pour payer l'assurance santé des employés pendant X temps ». Non, il n'a rien du tout personnellement. Il est responsable, mais il n'y a pas de conséquences. D'un autre côté... Jeff Bezos a annoncé qu'il allait donner la majorité de sa fortune, qui est aujourd'hui à 124 milliards de dollars, avant sa mort, qu'il allait la donner à des œuvres caritatives ou à des initiatives pour réduire le réchauffement climatique, des choses comme ça. Il y a une grosse organisation qui s'appelle The Giving Pledge, qui réunit des centaines de millionnaires et de milliardaires du monde. C'est le truc organisé par Bill Gates et Warren Buffett à la base, je crois. D'ailleurs, SBF... en faisait partie du Giving Pledge, et c'est une organisation dans laquelle les gens promettent de donner toute leur fortune, ou la majorité de leur fortune, avant leur mort. Donc c'est un truc qui est plutôt cool, on ne dit pas souvent du bien des milliardaires, mais là c'est plutôt cool, je suis sûr d'ailleurs que Jeff fait partie du Giving Pledge, hein. Il a décidé de donner ses milliards à des bonnes causes. Et donc, Jeff Bezos...
Je ne parle pas de mes activités caritatives, ça ne regarde que moi et ma femme.
Tout à fait. Mais Jeff Bezos a décidé qu'il allait donner tout son argent, c'est pas mal. À côté de ça, Zuckerberg, il nage dans Ready Player One.
Juste un commentaire. De toute façon, il n'y a aucune valeur d'info ou de news au fait d'annoncer des lay-offs massifs, parce que tout le monde va le faire. Des licenciements massifs, parce que tout le monde va le faire. Mmh. Tout le monde va virer entre 12 et 18% de ses employés, de manière à réduire les coûts, parce que ce qu'on s'attend de 2023, c'est que ce sera une année absolument pourrie au niveau économique. À la limite, ce sera peut-être moins catastrophique, parce que les Républicains ne vont pas reprendre, n'auront pas la main mise sur les deux chambres aux États-Unis. Maintenant, c'est peut-être l'Assemblée, mais en tout cas, le Sénat, ce ne sera pas le cas. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on s'attend tous à ce que 2023 soit vraiment absolument abominable. Et donc, mon propre... demain, je parle à mes fondateurs et je vais leur dire de virer à peu près 10, 15, 20% de leurs employés parce que c'est la chose à faire de manière à préserver le cash.
Et ben voilà, la dure réalité de la Silicon Valley. Il n'y a pas d'autre choix pour toi.
Non, parce que si, enfin, soit t'as la, enfin, il faut toujours être nuancé et chaque boîte a un contexte et une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais dans l'absolu, si tu regardes en fait les grandes boîtes, les petites boîtes, les moyennes boîtes, tout le monde va devoir réduire la voilure, couper leurs dépenses. Et la plus grosse dépense, c'est les employés. Et donc, malheureusement, il va falloir dire au revoir à des gens qui ont bossé dur parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si tu ne fais pas ça, je dirais, il vaut mieux se couper un petit doigt que de couper la main, quoi.
Bon, j'espère qu'ils auront des solutions d'assurance santé derrière ces braves gens, parce qu'aux États-Unis, c'est pas formidable.
Aux États-Unis, c'est pas formidable, c'est sûr. Et sur cette note positive,
eh ben on va se quitter. On se quitte. Merci à tous les deux d'avoir participé. Où on peut te retrouver, Jeff ? À Jeff sur Twitter, toujours ?
Toujours Jeff sur Twitter, jusqu'à ce que je me fasse virer par Elon Musk, parce que je ne veux pas payer. Et puis, c'est tout, parce qu'en fait, il y a guère que là que j'ai une présence online, parce que je ne blogue plus, parce que... Je bloguais quand c'était cool en 2004, maintenant tout le monde le fait.
Ça va redevenir cool quand Twitter disparaîtra. Marion, okay, ciao Jeff, où te retrouve-t-on Marion ?
Ciao.
Oula,
il a filé très vite.
Je pense qu'il y avait, il y avait son meeting qui était « Hey Jeff, t'es où ?»
Ouais, je pense aussi. de mon côté, vous pouvez me retrouver sur Twitter encore, mais je ne suis pas très active justement, c'est Aizea Design. Et sinon, vous me retrouvez tous les mardis matins en live sur Twitch pour Naotech et l'émission Le Mug, où on débrief de l'actualité tech. Voilà.
Magnifique. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Un épisode court et sympathique, un peu stressant parfois peut-être, mais plutôt un bon moment en votre compagnie. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Le Discord, où on s'amuse bien, est dans les notes de l'émission. Le live, quand on fait des lives, c'est dans les notes de l'émission. Et puis le Patreon, patreon.com/rdvtech. Et à tous ceux qui disent qu'on est incapable de faire un épisode de moins d'une heure, et voilà, ça arrive de temps en temps, c'est possible. On a prouvé qu'on pouvait faire l'impossible, Marion. Et en plus, on a parlé de sujets intéressants et nombreux. C'était même pas un épisode de rabais, tu vois. C'est fou.
C'était pas les plus simples.
C'est clair. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao, bye bye.
Ah merde, j'ai oublié de faire le générique. Je vais le faire quand même, comme ça Fanny a moins de montage à faire. Hop.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.